Monsieur Eloi Ndimaté, bonjour.
Bonjour.
Plusieurs fois ministre en République centrafricaine, aujourd'hui vous avez décidé de vous présenter au suffrage universel du peuple en étant candidat aux élections présidentielles. Quelles sont vos motivations réelles?
Vous savez, cela vient de mes tripes. Je suis centrafricain de père et de mère. Je suis né en République centrafricaine. Il fut un temps où je suis parti étudier à l'étranger, mais je suis revenu pendant plus de 35 ans. J'ai servi mon pays à tous les niveaux. Comme vous l'avez dit, comme ministre, comme enseignant à l'université, mais aussi comme animateur associatif ou membre associatif. Je vois ce qui se passe autour de moi. Je vis ce qui se passe autour de moi. La misère est là. La paix a abandonné notre pays. Personne ne cherche à résorber ça. Je trouve injuste qu'une frange de la population, 8% de la population, puisse être à l'aise dans cet océan de misère que constitue en tout cas notre population, puisque les statistiques officielles disent que quand on prend 100 centrafricains, 92 vivent en dessous du seuil. C'est pour ce pays-là que j'ai décidé de m'engager. Je veux me battre en tout cas pour ce pays et pour ce peuple.
Vous voulez vous battre pour ce pays et pour ce peuple? Mais qu'est-ce qu'on peut retenir comme socle de votre projet une fois élu et susceptible de résorber le problème à court, moyen et long terme?
Mais vous savez, il y a une situation que les Centrafricains oublient souvent. Notre société est faite de générosité et de solidarité. C'est à dessein que j'ai choisi de m'inscrire sous la bannière de Centrafrique solidaire. Il faut, dans ce pays, que les nantis puissent aider les moins nantis.
Donc la redistribution des richesses.
Il faut redistribuer les richesses, mais il faut aussi faire en sorte que ceux qui ont les moyens puissent venir en aide à ceux qui n'en ont pas. C'est ce que je compte faire dans le programme que vous verrez, qui se déclinera en deux parties, les 100 premiers jours de mon mandat et le reste du temps. Vous verrez en tout cas les mesures inédites qui vont sans doute mettre mal à l'aise certains de nos compatriotes que l'État centrafricain que je vais diriger prendra.
Donc, si je vous comprends bien, ça veut dire que dans les 100 premiers jours de votre mandat, une fois élu, il y aura des coupes budgétaires pour les riches, pour financer les pauvres.
Mais il faut déjà que l'État commence par faire des sacrifices. Notre État vit en ce moment au-dessus de ses moyens. Les voyages de complaisance, les grosses bagnoles qu'on roule, les déplacements farfelus qu'on fait à travers la ville avec un cortège de 40 à 50 véhicules.
C'est pour dire que Touadéra voyage beaucoup, c'est ça?
Je ne suis pas là pour parler de Touadéra. Touadéra, c'est Touadéra. Moi, je m'appelle Anguimaté.
Voyage beaucoup?
Je parle de ceux qui voyagent et qui veulent se reconnaître dans ce que je dis. Donc, je dis qu'il y a des choses que nous pouvons faire, mais faire simplement, comme je l'annonçais tantôt, pour le bien de notre pays. Voyez-vous, quand on prend les créations artistiques, pour ne pas dire artificielles, que nous avons dans la Constitution de la République centrafricaine, quand on prend le gouvernement de la République centrafricaine, j'ai été ministre de l'Éducation, j'ai assumé à moi seul ce ministère-là qui est divisé aujourd'hui par quatre et qui constitue en tout cas quatre charges pour l'État. Il y a le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique, il y a le ministère de ceci, il y a le ministère de Titikaka, excusez-moi le terme, etc. Quatre ministères dans un ministère, ça constitue quatre charges pour l'État centrafricain et pour le contribuable que nous sommes. Vous prenez le ministère de la fonction publique. J'ai été ministre de la fonction publique et du travail. Je faisais tout ce boulot-là à moi seul. Aujourd'hui, vous avez quatre ministres pour exercer la même fonction. Vous prenez le ministère de l'administration du territoire. C'est pareil. Pourquoi multiplier les charges quand on, là, à côté, là, à l'hôpital communautaire, il n'y a pas de médicaments? Vous allez à l'hôpital de l'amitié, il n'y a pas de médicaments. Dans les centres de santé, il n'y a pas de médicaments. Dans les écoles, à Bangui, la capitale, vous y allez, il n'y a pas de table banc. Trouvez ça normal? L'État va apprendre à ses dépens, à vivre raisonnablement.
La situation sécuritaire aujourd'hui en République centrafricaine est préoccupante. Alors, quelle est, selon vous, la piste de sortie de crise avec ce qui se passe à Bessan, Yemelewa, à Lindao et partout ailleurs?
Vous savez, je n'aime pas traiter les gens de malhonnêtes, mais j'ai comme l'impression que nous ne sommes que des malhonnêtes dans ce pays. Quand on veut la paix, on ne veut pas la paix à moitié. Il y a deux pistes de sortie, en tout cas, dans la crise que nous traversons. C'est soit on dialogue, et on dialogue franchement, entièrement, ou alors on fait le choix des armes. Le chef de l'État, puisque vous voulez que je parle de lui, a choisi le dialogue. C'est son leitmotiv. Je suis l'homme de dialogue. Je suis l'homme de dialogue. On a été à Khartoum, on a dialogué. Mais pourquoi on n'a pas fait ce dialogue-là en Centrafrique? Les acteurs, les victimes ne sont pas à Khartoum.
Ici, là, ce ne sont pas l'endroit qui pose problème, mais c'est la mise en œuvre de l'accord, il me semble, qui pose problème.
Je ne sais pas. Ce que je constate, malheureusement, c'est que cet accord-là a occasionné beaucoup plus de morts qu'il n'en a sauvé. On s'attendait au retour de Khartoum qu'il n'y aura plus de morts, mais si on regarde ce qui s'est passé à Briya, à Birao, à Ndélé, à Bambari, à Alindao, que sais-je encore, et tout récemment, puisque vous citez le cas de Besson, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a fait tout ce folklore-là autour de ce qui s'est passé à Khartoum.
Les députés, lors de la session extraordinaire, ont boycotté la séance pour protester contre la mort de Faka sur le champ d'honneur. Comment avez-vous accueilli cette réaction?
Ils sont combien à avoir boycotté la séance? On va parler de 30 personnes, non? Sur un total de 140. Ça signifie que majoritairement, ce qui s'est passé à Besson, là, ils sont d'accord avec. Non, tout cela, c'est du cinéma. Moi, je ne suis pas un acteur de cinéma. Je ne suis pas du tout un acteur de cinéma. Et vous ne me verrez pas dans une salle de cinéma. J'ai en tout cas mon idée de la chose. Je vous le dirai le moment venu.
C'est laquelle?
Quand je serai aux affaires, vous le verrez. Et quand mon programme sortira, vous verrez cela.
Ok. Vous avez aussi pointé du doigt le problème de l'éducation, le problème de la jeunesse. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'emploi. Or, à un moment donné de l'histoire de ce pays, vous avez été aux affaires et vous avez géré des portefeuilles aussi sensibles qu'est l'éducation et aussi la fonction publique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous et est-ce que vous avez le sentiment de remords devant cette situation que vous décriez aujourd'hui?
Je n'ai pas de remords. J'ai fait en toute conscience le travail que je devais faire comme ministre de l'Éducation et comme ministre de la Fonction. N'en déplaise aux gens, mon passage est quand même salué par l'ensemble des enseignants qui sont des collègues. Et quand j'étais à la Fonction publique, vous rencontrerez n'importe quel syndicaliste. Il vous dira en tout cas les rapports que j'ai eus avec eux. C'est vrai, vous savez, ce qui est difficile pour un ministre, c'est de travailler sans moyens. Quand on ne vous donne pas les moyens. J'ai fait cet exercice-là la dernière fois quand j'étais ministre de l'Éducation. J'ai fait plusieurs missions à l'extérieur. J'ai dû négocier moi-même mes sorties. Je suis parti en mission, sans frais de mission, me contentant en tout cas du gîte qu'on m'a offert, du lit qu'on m'a offert, et j'étais dans l'incapacité de recevoir les gens qui m'ont reçu pour en retour partager un pot avec eux ou partager un repas avec eux. Mais je l'ai fait. Je ne le regrette pas du tout. Ce que je regrette, c'est ce temps-là que nous avons perdu. On a perdu beaucoup de temps. Du seul fait que la priorité de nos dirigeants, ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas la santé, ce n'est pas l'emploi des jeunes. Et vous verrez que dans vous prenez nos lois, nos différentes lois de finances, qui sont en fait des duplications, des multiplications du même machin, draft, vous verrez qu'il n'y a pas une piste, une ligne directrice dans ces lois de finances-là qui vous disent que voilà, le gouvernement fait de ça sa priorité et ne fait pas de ça sa priorité.
Mais si je vous comprends bien, c'est ce qui justifie la tension à l'époque quand vous étiez encore au ministère de l'Éducation nationale.
Non, je n'ai pas eu de tension avec qui? Avec mes collaborateurs.
Beaucoup des enseignants vous reprochent de n'avoir pas déroulé une feuille de route qui va dans le sens de l'émergence des enseignants et même de l'enseignement en Centrafrique.
Je l'apprends.
Ok. Vous avez été aux affaires pendant la transition sous Catherine Samba-Panza. La situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui?
Mais c'est pas pour jeter des fleurs à Madame Samba-Panza. C'est les rapports que le représentant du secrétaire général des Nations Unies dresse sur notre pays qui le dit. Entre Djotodia, Madame Samba-Panza et l'actuel régime, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Donc c'est pas moi qui en parle. Je ne fais que constater, comme tout le monde, qu'il y a eu beaucoup plus, en tout cas, de morts sous ce régime-là que sur les deux précédents. Je le regrette parce que j'ai œuvré en mon temps quand j'étais ministre résident de la Nana Gribizi, j'ai beaucoup fait pour réconcilier les Séléka, les Antibalaka et la population de la Nana Gribizi. C'est d'ailleurs pour cela que vous verrez, j'ai annoncé tout à l'heure ici que j'étais en même temps candidat à l'élection législative, mais c'est la population de Kagabandro qui m'a dépêché ici une délégation pour venir solliciter que je sois en tout cas le représentant de cette localité-là à l'Assemblée nationale.
La victoire à l'élection présidentielle dépend de l'organisation des élections. Or, il s'avère que cette élection-là, la Cour constitutionnelle veut un consensus autour à travers son avis. S'il faut aller à ce consensus, quel sera votre projet de discussion dans ce consensus tant souhaité par la Cour constitutionnelle?
Vous savez, il y a des débats que je n'aime pas faire. Ça, ce sont des débats de bas étage, des calculs politiciens. Moi, je veux qu'on aille aux élections. Là où je suis là, je veux qu'on aille aux élections en décembre. Je demande rien de plus.
Monsieur Éloi Anguimaté, je vous remercie.
Je vous remercie.